Catéchisme de Trente, chapitre 27e, le sacrement de mariage. S'il est vrai que les pasteurs ne doivent se proposer que le bonheur et la perfection des fidèles, leur vœu le plus ardent pour eux devrait être celui de l'apôtre écrivant aux Corinthiens. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, c'est-à-dire je voudrais les voir vivre toujours chastes. Il n'y a pas en effet de bonheur plus grand en ce monde que d'avoir l'âme tranquille, dégagée des soins et des soucis de ce monde, en paix, du côté de la concupiscence et des convoitises coupables, uniquement occupée de la piété et de la méditation des choses du ciel. Mais, dit le même apôtre, chacun a reçu de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. D'ailleurs, le mariage possède des grâces et des biens tout célestes. Il est devenu l'un des sept sacrements de l'Église catholique. Notre Seigneur voulut bien un jour honorer de sa présence la solennité des noces. Tous ces motifs nous prouvent suffisamment que les pasteurs doivent instruire les fidèles sur cette matière. Surtout en voyant saint Paul et le prince des apôtres consigner avec le plus grand soin dans plusieurs passages de leurs écrits ce qui a rapport non seulement à la dignité, mais encore au devoir du mariage. Inspirés tous deux par le Saint-Esprit, ils comprenaient très bien les immenses avantages qui rejailliraient sur la société chrétienne si les fidèles connaissaient et conservaient sans tache la sainteté de cet état. Comme aussi ils pouvaient prévoir combien l'ignorance et les fautes à cet égard seraient funestes à l'Église et attirerait sur elle les plus grandes calamités. Paragraphe 1er. Qu'est-ce que le mariage? Parlons d'abord de la nature et des propriétés du mariage. Le vice se cache souvent sous les dehors de la vertu, et il est à craindre que les fidèles, trompés par une fausse apparence de mariage, ne vivent dans le péché en suivant l'entraînement de leurs caprices. Mais pour donner ces explications, il faut voir d'abord ce que signifie ce mot de mariage. Le mariage s'appelle en latin matrimonium, du mot mater, mère, parce que la femme se marie surtout pour devenir mère, ou bien de ces deux mots matris munus, fonction de la mère, parce que, en raison de la maternité, elle doit supporter les plus lourdes charges que lui imposent les enfants. On appelle aussi le mariage coniugium, union conjugale, d'un mot latin qui veut dire placé sous le joug, parce que le même joug lie entre eux la femme et le mari légitime. Enfin, le mariage est encore nommé nuptiae, noce, qui signifie voilé, soit parce que les jeunes filles en se mariant se voilaient par modestie, comme dit saint Ambroise, soit pour marquer par là l'obéissance et la soumission que la femme doit au mari. Voici maintenant la définition ordinaire que les théologiens nous en donnent. Le mariage est l'union conjugale de l'homme et de la femme, contractée selon les lois de l'Église et constituant une communauté de vie inséparable. Pour bien comprendre toutes les parties de cette définition, il faut remarquer que si, dans un mariage parfait, on trouve tout d'abord le consentement intérieur des personnes, puis un pacte ou convention extérieure exprimée par des paroles, et ensuite l'obligation et le lien qui naît de la convention, et enfin les rapports des époux qui achèvent le mariage. Rien de tout cela, cependant, ne renferme la nature et l'essence, excepté cette obligation, le lien qui est indiqué dans le mot d'union. On ajoute le mot conjugal, union conjugale, parce que les autres contrats ou conventions par lesquels l'homme et la femme s'obligent à se prêter un mutuel secours, par argent ou autrement, n'a rien de commun avec le mariage. Les mots qui viennent ensuite, contractés suivant les lois, ou bien entre personnes légitimes, nous montre qu'il est des personnes à qui les lois interdisent absolument le mariage et par conséquent qui ne peuvent contracter validement cette sorte d'union. Et celle qu'elles tenteraient serait ainsi nulle. Ainsi, par exemple, le mariage ne peut être contracté légitimement ni validement entre personnes parentes au quatrième degré, ni entre celles qui n'auraient point l'âge fixé par les lois qui régissent la matière et que l'on doit toujours observer fidèlement. Enfin, nous avons dit que le mariage oblige l'homme et la femme à vivre dans une communauté inséparable, parce que le lien qu'il établit entre eux est absolument indissoluble. D'où il suit nécessairement que l'essence même du mariage est dans ce lien dont nous parlons. Et si quelque théologien, et non des moindres, semble la faire consister dans le consentement, lorsqu'ils disent que l'union conjugale, c'est le consentement de l'homme et de la femme, cela doit s'entendre en ce sens que c'est le consentement qui est la cause efficiente du mariage. Ainsi l'ont enseigné les pères du Concile de Florence. Et en effet, il n'y a ni obligation ni lien possible sans consentement et sans pacte. Il est essentiel que le consentement soit exprimé par des paroles qui marquent un temps présent. Le mariage n'est pas une simple donation, c'est un pacte mutuel. Par conséquent, le consentement d'un seul ne saurait suffire pour le former, il faut le consentement des deux parties. Or, il est clair que la parole est nécessaire pour manifester le consentement réciproque des cœurs. Si le mariage pouvait exister avec un consentement purement intérieur et sans aucun signe sensible, il s'ensuivrait par exemple que si deux personnes habitant des pays très éloignés et très différents venaient à avoir la volonté de s'épouser, il y aurait réellement mariage entre eux dès ce moment, et mariage réel et solide avant même de s'être fait connaître réciproquement leur volonté par lettre ou autrement, ce qui est contraire à la raison, à la coutume et aux ordonnances de l'Église. Mais de plus, il est nécessaire que le consentement mutuel se donne en des termes qui indiquent le présent. Des paroles qui marqueraient le futur promettraient simplement le mariage, mais ne le formeraient point. D'ailleurs, ce qui est à venir n'existe pas encore, et ce qui n'est pas encore doit être considéré comme ayant peu ou point de consistance ou de stabilité. C'est pourquoi celui qui a seulement promis d'épouser une femme n'a point encore acquis à son égard les droits du mariage, puisque ce qu'il a promis n'est pas exécuté. Cependant, il doit tenir sa parole, autrement il commettrait le crime de parjure. Quant à celui que le pacte du mariage a une fois uni à une autre, il ne peut plus dans la suite ni changer, ni invalider, ni annuler cette alliance, quand même il se repentirait de l'avoir contractée. L'obligation du mariage n'est donc point une simple promesse, c'est une cession véritable que l'homme et la femme se font mutuellement d'eux-mêmes. Et par conséquent, elle doit être nécessairement formulée par des paroles qui indiquent le présent. Paroles dont l'effet subsiste ensuite d'une manière permanente, puisqu'ils tiennent l'époux et l'épouse enchaînés dans un indissoluble lien. Cependant, ces paroles peuvent être remplacées par des signes et des mouvements qui exprimeraient clairement le consentement intérieur. Le silence même suffirait si, par exemple, une jeune fille ne répondait point par modestie et si ses parents parlaient pour elle en sa présence. Les pasteurs enseigneront donc aux fidèles, d'après ce que nous venons de dire, que le mariage consiste essentiellement dans l'obligation ou le lien qui unit les époux, que le consentement, exprimé comme nous l'avons dit, suffit pour produire un véritable mariage, et qu'il n'est point nécessaire pour cela que le mariage soit effectif. Avant leur péché, nos premiers parents étaient certainement unis par un mariage réel, et cependant ce mariage n'avait point reçu son achèvement. C'est l'enseignement formel des saints pères. Aussi n'hésitent-ils pas à dire que le mariage consiste non dans l'usage, mais dans le consentement. Ainsi le répète entre autres saint Ambroise dans son livre des Vierges. Après ces explications, il faudra faire remarquer que le mariage a un double caractère. On peut le considérer comme une union naturelle, car ce n'est pas une invention des hommes, mais une institution de la nature, ou bien comme un sacrement dont la vertu est supérieure aux choses purement matérielles. Et comme la grâce perfectionne la nature, et que, au témoignage de l'apôtre, le spirituel ne précède point ce qui est animal, mais qui ne vient qu'après, l'ordre logique demande que nous traitions d'abord du mariage en tant qu'il est fondé sur la nature et qu'il produit des obligations naturelles, nous exposerons ensuite ce qu'il est comme sacrement. Paragraphe 2. Le mariage considéré par rapport à la nature. Les fidèles doivent savoir tout d'abord que le mariage a été institué par Dieu. En effet, nous lisons dans la Genèse « Dieu créa l'homme et la femme ». Il les bénit et leur dit « Croissez et multipliez ». Et encore, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide qui lui ressemble. » Puis un peu plus loin, « Il ne se trouvait point pour Adam d'aide qui fût semblable à lui. » Le Seigneur lui envoya un doux sommeil, et pendant qu'il dormait, il tira une côte et mit de la chair à la place. Et de la côte qu'il venait d'enlever à Adam, il forma la femme qu'il lui présenta. Et Adam la voya, s'écria, « C'est l'os de mes os et la chair de ma chair. » Elle sera appelée d'un nom pris de l'homme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme abandonnera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et ils seront deux dans une même chair. Ces paroles, selon le témoignage même de notre Sauveur dans saint Matthieu, prouvent que Dieu lui-même est l'auteur du mariage. Non seulement Dieu est l'auteur du mariage, mais encore, comme l'enseigne le Concile de Trente, il a voulu que cette union eût un lien perpétuel et indissoluble. Ce que Dieu a joint, dit le Sauveur lui-même, que l'homme ne le sépare point. Bien que l'indissolubilité convienne parfaitement au mariage comme œuvre de la nature, c'est surtout à son titre de sacrement qu'il la doit. C'est ce même titre qui élève à leur haute perfection toutes les propriétés naturelles. Toutefois, l'éducation des enfants et les autres fins du mariage répugnent aussi à la dissolution du lien qui les constitue. Quant à ces paroles du Seigneur « Croissez et multipliez », elles ont pour but de faire connaître la cause de l'institution du mariage et non d'en imposer l'obligation à tout le monde. Le genre humain étant multiplié comme il l'est, non seulement personne n'est tenu par aucune loi à se marier, mais encore la virginité est hautement célébrée et conseillée dans nos saints livres comme supérieure à l'état du mariage, c'est-à-dire plus parfaite et plus sainte. Ainsi l'a enseigné notre Seigneur Jésus-Christ lui-même par ses paroles, que celui qui peut comprendre comprenne. Et saint Paul a dit après lui, « Je n'ai point reçu de commandement du Seigneur relativement aux vierges. Mais voici le conseil que je donne, comme ayant reçu de Dieu la grâce d'être son fidèle ministre. » Paragraphe 3. Des motifs et des fins du mariage. Nous avons maintenant à exposer les motifs qui doivent déterminer l'homme et la femme à se marier. Le premier, c'est l'instinct naturel, qui porte les deux sexes à s'unir dans l'espoir de s'aider mutuellement et de trouver dans cette réciprocité de secours plus de force pour supporter les incommodités de la vie et les infirmités de la vieillesse. Le second est le désir d'avoir des enfants, moins il est vrai pour laisser des héritiers de ses biens et de ses richesses que pour donner à Dieu des serviteurs croyants et fidèles. Telle était avant tout l'intention des saints patriarches de l'ancienne loi lorsqu'ils prenaient des épouses. Nos saints livres ne nous laissent aucun doute sur ce point. Et c'est pourquoi l'ange Raphaël, apprenant à Tobie le moyen de se défendre contre les violences du démon, lui disait « Je vous montrerai qui sont ceux sur qui le démon a de la puissance. Ce sont ceux qui entrent dans le mariage sans penser à Dieu et à son amour, uniquement pour satisfaire leurs passions, comme des animaux sans raison. Le démon est tout puissant contre eux. » Puis l'ange ajoutait, « Mais vous, vous prendrez cette jeune fille avec la crainte du Seigneur, dans le désir d'avoir des enfants, et non de satisfaire vos passions, afin que vous obteniez dans vos enfants la bénédiction promise à la race d'Abraham. Et c'est là en effet la fin véritable pour laquelle Dieu institua le mariage au commencement. Aussi, cela commet une faute très grave qui s'oppose volontairement à cette fin du mariage. Elle a été voulue et ordonnée par Dieu, qui unit inséparablement les droits et les devoirs. À ces deux premiers motifs, un troisième est venu s'adjoindre depuis le péché du premier homme. Après qu'il eut perdu l'innocence dans laquelle il avait été créé, et que la concupiscence eut commencé à se révolter contre la droite raison. Dès lors, celui qui a conscience de sa faiblesse et qui ne veut point combattre les révoltes de la chair, doit trouver dans le mariage un secours pour son salut. Et c'est ce qui a fait dire à l'apôtre, dans la crainte du péché, que chaque homme vive avec sa femme et chaque femme avec son mari. Puis, après avoir dit qu'il est bon de ne pas toujours user de tous ses droits, afin de vaquer plus librement au devoir de la prière, il ajoute encore que les époux ne doivent pas cesser dans leur vie commune de se prêter un mutuel appui contre les tentations et la faiblesse d'ici-bas. Voilà donc les motifs qui doivent, l'un ou l'autre, déterminer ceux qui veulent contracter mariage d'une manière sainte et pieuse, comme il convient aux enfants des saints. Mais si quelques-uns étaient portés par d'autres causes à se marier, et si dans le choix d'une épouse ils avaient principalement en vue l'espérance de laisser des héritiers, ou encore les richesses, la beauté, l'éclat de la naissance, la ressemblance des caractères, de tels motifs ne seraient point blâmables pour cela, parce qu'ils ne sont pas contraires à la sainteté du mariage. Ainsi la Sainte Écriture ne nous dit pas que le patriarche Jacob ait été coupable pour avoir préféré Rachel à Lia à cause de sa beauté. Paragraphe 4 du sacrement de mariage. Après avoir expliqué ce qui regarde le mariage considéré comme union naturelle, il faut l'étudier maintenant comme sacrement et montrer que sous ce rapport il est beaucoup plus excellent et qu'il tend à une fin beaucoup plus élevée. Le but du mariage en tant qu'union naturelle, c'est la propagation de la race humaine. Dieu l'avait ainsi voulu dès le commencement. Mais ensuite, le mariage a été élevé à la dignité de sacrement, afin qu'il en sortît un peuple engendré et formé pour le culte et la religion du vrai Dieu et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Aussi, cette union sainte de l'homme et de la femme est-elle donnée par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même comme le signe visible de cette union si étroite qui existe entre lui et son Église et de l'immense charité qu'il a pour nous. C'est ainsi qu'il a symbolisé la divinité d'un si grand mystère. Et en effet, ce choix était de toute convenance, puisque de tous les liens qui enchaînent les hommes entre eux et qui les rapprochent les uns des autres, il n'en est pas de plus étroit que le mariage. L'époux et l'épouse sont attachés l'un à l'autre par la charité et la bonté la plus grande. Voilà pourquoi nos saints livres nous représentent si souvent l'union divine de Jésus-Christ avec son Église sous l'image de noces ou de mariage. Maintenant que le mariage soit un sacrement, l'Église, appuyée sur l'autorité de l'apôtre, l'a toujours tenu pour certain et incontestable. Voici en effet ce que saint Paul écrivait aux Éphésiens. Les maris doivent aimer leur épouse comme leur propre corps. Celui qui aime son épouse s'aime lui-même, car personne ne hait sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient, comme Jésus-Christ fait pour son Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à son épouse, et ils seront deux dans une même chair. Ce sacrement est grand, je dis, en Jésus-Christ et dans l'Église. Or ces mots, ce sacrement est grand, se rapportent à coup sûr au mariage, puisque l'union de l'homme et de la femme dont Dieu est l'auteur est précisément le sacrement, c'est-à-dire le signe sacré de cet autre lien si saint qui unit Jésus-Christ à son Église. Et tous les anciens pères qui ont interprété ce passage démontrent que c'est là son sens propre et véritable. Et le Saint Concile de Trente l'explique de la même manière. Il est donc certain que l'apôtre compare l'homme à Jésus-Christ et la femme à l'Église, et que l'homme est le chef de la femme, comme Jésus-Christ est le chef de l'Église. Que pour cette raison, l'homme doit aimer sa femme, et la femme aimer et respecter son mari. Car Jésus-Christ, a dit l'apôtre, a aimé son Église, et il s'est livré pour elle. Et l'Église, à son tour, selon la doctrine du même apôtre, est soumise à Jésus-Christ. De plus, ce sacrement signifie et produit la grâce, deux propriétés qui constituent à proprement parler l'essence même du sacrement. C'est ce que nous enseignent ces paroles du Concile de Trente. Jésus-Christ lui-même, auteur et instituteur des sacrements, nous a mérité par sa passion la grâce propre à perfectionner l'amour naturel des époux, à affirmer l'union indissoluble qui existe entre eux et à les sanctifier. Il faut donc enseigner que l'effet de la grâce produite par ce sacrement, c'est de fixer et d'arrêter dans les douceurs d'un bonheur tranquille la tendresse mutuelle et l'amour réciproque des deux époux, de maintenir leur cœur et de le préserver de toute action déréglée, afin qu'en toute chose le mariage soit honorable et le foyer toujours digne. Il est aisé de juger maintenant combien le mariage chrétien l'emporte sur ces unions qui se faisaient, soit avant, soit après la loi de Moïse. Sans doute les gentils étaient convaincus qu'il y avait quelque chose de divin dans le mariage. Aussi réprouvaient-ils comme contraire à la nature les unions qui avaient lieu hors du mariage. Et même, ils jugeaient digne de châtiment l'adultère, la violence et les autres genres de libertinage, mais néanmoins le mariage n'eut jamais chez eux le caractère de sacrement. Les Juifs, il est vrai, observaient les lois du mariage avec un respect vraiment religieux, et il n'est pas douteux que leurs alliances eussent un degré de sainteté beaucoup plus élevé. Comme ils en avaient reçu de Dieu la promesse, qu'un jour toutes les nations seraient bénies dans la race d'Abraham, ils considéraient avec raison comme un devoir de haute piété d'avoir des enfants et de contribuer à l'accroissement du peuple choisi, d'où Jésus-Christ, notre Sauveur, dans sa nature humaine, devait tirer son origine. Mais ces unions-là même ne renfermaient point la véritable essence du sacrement. Il faut joindre à cela que sous la loi de nature après le péché de nos premiers parents, soit même sous la loi de Moïse, le mariage avait singulièrement dégénéré de sa première sainteté et de sa pureté originelle. Ainsi, sous la loi de nature, nous voyons que beaucoup de patriarches avaient plusieurs femmes à la fois. Et sous la loi de Moïse, il était permis de répudier une femme pour certaines raisons en lui délivrant un billet de divorce. Mais la loi évangélique a supprimé cette double liberté et ramené ainsi le mariage à son premier état. Ce n'est pas qu'on puisse blâmer ces anciens patriarches d'avoir eu plusieurs femmes, car ils n'en avaient agi ainsi qu'avec la permission divine. Mais Jésus-Christ a montré clairement que la polygamie est contraire à la nature même du mariage, quand il a dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse, et ils seront deux ne faisant qu'un. » Ainsi, ajoute-t-il, ils ne sont plus deux, mais un seul. Ces paroles font voir évidemment que Dieu a institué le mariage pour en faire l'union de deux personnes et non davantage. D'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ l'enseigne très nettement dans ce même passage de saint Matthieu. « Quiconque renvoie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, c'est une adultère. Car s'il était permis à l'homme d'avoir plusieurs femmes, on ne voit pas pour quelle raison il serait moins adultère en épousant une autre femme avec celle qu'il aurait déjà, que s'il en prenait une seconde après avoir renvoyé la première. » C'est pour cela que si un infidèle, qui d'après les mœurs et les usages de son pays a épousé plusieurs femmes, vient à se convertir à la vraie religion, l'Église lui ordonne de les renvoyer toutes, à l'exception de celle qu'il a eue la première, et elle veut qu'il tienne celle-ci pour sa véritable et légitime épouse. Le même témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ prouve également qu'aucun divorce ne saurait rompre le lien du mariage. Car si le divorce affranchissait la femme de la loi qui l'attache à son mari, elle pourrait sans adultère se marier à un autre. Or notre Seigneur dit positivement que quiconque renvoie sa femme et en prend une autre commet un adultère. Il est donc évident que la mort seule peut briser le lien du mariage. C'est ce que l'apôtre vient confirmer quand il dit la femme est enchaînée à la loi tant que son mari est vivant. S'il vient à mourir, elle est affranchie. Elle peut alors se marier à qui elle veut, pourvu que ce soit selon le Seigneur. Et encore, quant à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que l'épouse ne se sépare point de son mari. Si elle en est séparée, il faut qu'elle reste sans mari, ou qu'elle se réconcilie avec le premier. L'apôtre laisse donc à la femme qui a quitté son mari pour une cause légitime cette alternative ou de vivre comme n'étant point mariée, ou de se réconcilier avec lui. On dit pour une cause légitime, car la Sainte Église ne permet point à l'homme et à la femme de se séparer sans les plus graves motifs. Et pour que personne ne trouve trop dure cette loi qui rend le mariage absolument indissoluble, il faut montrer maintenant quels en sont les avantages. Paragraphe 5. Des avantages et des biens du mariage. Le premier, c'est de faire comprendre aux fidèles que dans un mariage à conclure, on doit considérer la vertu et la conformité de mœurs plutôt que des richesses et la beauté. Rien n'est plus propre, évidemment, à entretenir la bonne harmonie entre le mari et la femme. D'ailleurs, si le mariage pouvait se dissoudre par le divorce, les époux ne manqueraient presque jamais de raison pour se séparer. L'antique ennemi de la paix et de la vertu leur en fournirait tous les jours de nouvelles. Mais quand ils viennent à réfléchir que même en cessant la vie commune et tous les rapports de l'union conjugale, ils n'en restent pas moins enchaînés par les liens du mariage, sans aucune espérance de pouvoir jamais se marier à d'autres, cette pensée les rend moins propres à se diviser et à se fâcher l'un contre l'autre. Si même il arrive qu'ils se séparent et qu'ils ne puissent supporter longtemps la privation du mariage, ils se laissent se réconcilier par des amis et reprennent la vie commune. Les pasteurs ne doivent pas omettre ici l'exhortation si salutaire de saint Augustin. Pour montrer aux fidèles qu'ils ne devaient pas faire trop de difficultés pour se réconcilier avec leur épouse lorsqu'ils s'en étaient séparés pour cause d'infidélité et qu'elle se repentait de leur crime. Pourquoi, disait-il, le mari fidèle ne recevra-t-il pas une épouse que l'Église reçoit? Et pourquoi l'épouse ne pardonnerait-elle pas à son mari coupable mais repentant, lui à qui Jésus-Christ lui-même a pardonné? Quand l'Écriture appelle insensé celui qui garde une femme adultère, elle a en vue celle qui, après sa faute, refuse de se repentir et de sortir de sa honte et de son péché. D'après tout ce que nous venons de dire, il est bien évident que le mariage des chrétiens est infiniment plus parfait et plus digne que celui des infidèles et même des juifs. Il y a de plus trois biens particuliers propres au mariage et dont il faut parler aux fidèles, c'est à savoir les enfants, la fidélité et le sacrement, qui sont comme une compensation des peines et des ennuis dont parle l'apôtre quand il dit « Les personnes mariées éprouveront des tribulations de toutes sortes. » De là encore, il résulte que l'union de l'homme et de la femme qui serait condamnable à juste titre en dehors du mariage est permise et légitime entre les époux. Le premier bien du mariage, c'est la famille, c'est-à-dire les enfants nés d'une épouse légitime et véritable. L'apôtre saint Paul l'élève si haut qu'il va jusqu'à dire la femme sera sauvée par les enfants qu'elle mettra au monde. Paroles qui doivent s'entendre non pas seulement de la génération des enfants, mais encore de leur éducation et du soin de les former à la piété. Car il ajoute aussitôt s'ils persévèrent dans la foi. D'ailleurs, l'Écriture dit positivement « Avez-vous des enfants ? Sachez les instruire et les plier aux joues dès leur enfance. » L'apôtre saint Paul enseigne la même doctrine, et l'histoire sainte nous montre dans le saint homme Job, dans Tobie, et dans plusieurs autres saints patriarches, des exemples admirables de l'éducation que les parents doivent donner à leurs enfants. Au reste, nous exposerons plus longuement au quatrième commandement de Dieu les devoirs des parents et des enfants. Le second bien du mariage, c'est la foi. Non pas cette vertu de foi que nous recevons et qui nous pénètre en quelque sorte dans le baptême, mais cette foi mutuelle qui lie si étroitement le mari à l'épouse et l'épouse au mari, qu'ils se donnent entièrement l'un à l'autre, avec la promesse de ne jamais violer la sainte alliance du mariage. Cette conclusion se déduit aisément des paroles prononcées par notre premier père en recevant Ève pour son épouse, paroles que notre Seigneur a confirmées lui-même dans l'Évangile en les répétant. L'homme, dit-il, abandonnera son père et sa mère, et il s'attachera à son épouse, et ils seront deux, ne faisant qu'un. De même, l'apôtre déclare que la femme ne s'appartient pas, mais qu'elle appartient à son mari, et que l'homme ne s'appartient pas, mais il appartient à sa femme. C'est donc avec une parfaite justice que dans la loi ancienne, le Seigneur avait porté des peines si sévères contre les coupables qui violeraient la foi conjugale. La fidélité du mariage demande en outre que le mari et la femme s'aiment d'un amour particulier, tout chaste et tout pur, bien différent de l'amour déréglé, mais d'un amour semblable à celui de Jésus-Christ pour son Église. C'est la règle que prescrit l'apôtre quand il dit « Marie, aimez vos épouses comme Jésus-Christ a aimé son Église ». Or, si Jésus-Christ a eu pour son Église un amour si grand et si étendu, ce n'est point assurément pour son propre avantage, mais uniquement pour le bien de son épouse. Le troisième bien du mariage, c'est le sacrement, c'est-à-dire le lien indissoluble qui unit les époux. Ainsi que nous le lisons dans l'apôtre, le Seigneur a ordonné à l'épouse de ne point se séparer de son époux, ou, si elle vient à s'en séparer, de rester son mari, ou de se réconcilier avec le premier, et au mari de ne point renvoyer son épouse. En effet, si le mariage en tant que sacrement représente l'union de Jésus-Christ avec son Église, n'est-il pas nécessaire que, comme Jésus-Christ n'abandonne jamais son Église, l'épouse ne puisse jamais non plus être séparée de son époux au point de vue du lien conjugal? Mais pour conserver plus aisément la paix dans cette sainte société, il y aura lieu de faire connaître les devoirs du mari et de la femme, tels qui nous ont été transmis par saint Paul et par saint Pierre, le prince des apôtres. Paragraphe 6. Les devoirs réciproques des époux. Le premier devoir du mari est de traiter sa femme avec douceur et d'une manière honorable. Il doit se souvenir qu'Adam appela Ève sa compagne quand il dit « La femme que vous m'avez donnée pour compagne ». C'est pour cette raison, disent quelques saints pères, que la femme ne fut pas tirée des pieds de l'homme, mais de son côté, comme aussi elle ne fut point tirée de sa tête, afin qu'elle comprît bien qu'elle ne devait point dominer son mari, mais plutôt lui être soumise. En second lieu, il convient que le mari soit occupé à quelque travail honnête, tant pour fournir à sa famille ce qui est nécessaire à son entretien, que pour ne point languir dans une moelle oisiveté, source de tous les vices. Enfin, il doit régler sa famille, corriger et former les mœurs de tous ceux qui la composent, et contenir chacun dans son devoir. Quant à la femme, voici quelles sont ses obligations. D'après l'apôtre saint Pierre, que les femmes soient soumises à leur mari, afin que s'il en est qui ne croient point à la parole, ils soient gagnés, sans la parole, par la bonne vie de leur femme, lorsqu'ils considéreront la pureté de vos mœurs, unie au respect que vous avez pour eux. Ne vous parez pas au dehors par l'art de votre chevelure, par les ornements d'or, ni par la beauté des vêtements. Mais ornez l'homme invisible, caché dans le cœur, par la pureté incorruptible d'un esprit de douceur et de paix, ce qui est un riche ornement aux yeux de Dieu. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu et qui obéissaient à leur mari. Telle était Sarah qui obéissait à Abraham, qu'elle appelait son Seigneur. Un autre devoir essentiel des femmes, c'est l'éducation religieuse des enfants et le soin assidu des choses domestiques. Elles aimeront aussi à rester chez elles, à moins que la nécessité ne les oblige à sortir, et même alors, elles devront avoir l'autorisation de leur mari. Enfin, et ceci est le point capital dans le mariage, elles se souviendront que, selon Dieu, elles ne doivent ni aimer ni estimer personne plus que leur mari, et qu'elles sont obligées, en tout ce qui n'est point contraire à la piété chrétienne, de leur être soumises et de leur obéir avec joie et empressement. Paragraphe 7. Des formalités du mariage. Comme complément naturel des explications qui précèdent, les pasteurs auront à faire connaître les formalités que l'on doit observer en contractant mariage. Mais il ne faut pas s'attendre que nous parlions ici de ces règles, car le Concile de Trente les a déterminées en détail et avec la plus grande exactitude, au moins dans leurs points principaux. Et les pasteurs ne peuvent ignorer ce qu'il a prescrit à cet égard. Il suffit donc de les avertir en ce moment qu'ils doivent s'appliquer à étudier la doctrine du Saint Concile sur cette matière, puis de l'exposer aux fidèles avec le soin qu'elle mérite. Et pour empêcher les jeunes gens et les jeunes filles qui réfléchissent si peu de se laisser tromper par une fausse apparence de mariage et d'ériger en alliance des relations qui ne seraient pas légitimes, ils ne se laisseront point de répéter qu'il ne peut y avoir de légitime et véritable mariage que celui qui est contracté en présence du propre curé ou d'un autre prêtre délégué par lui ou par l'ordinaire et devant un certain nombre de témoins. Il ne faut pas non plus oublier les empêchements du mariage. C'est un sujet qui a été traité avec tant de soin par la plupart des docteurs les plus savants qui ont écrit sur les vices et les vertus, que chacun pourra aisément se souvenir ici de ce qu'ils ont laissé sur ce point, d'autant plus que leur livre doit rester entre les mains des pasteurs. Ils les liront donc avec la même attention sérieuse que les décrets du Concile de Trente sur les empêchements qui naissent de la parenté spirituelle, ou de l'honnêteté publique, ou de l'adultère, pour pouvoir en instruire ensuite les fidèles. D'après ce que nous venons de dire, il est facile de voir dans quelle disposition il faut être pour s'engager dans le mariage. Les fidèles doivent se rappeler que cette union n'est point une chose purement humaine. Le mariage est une alliance toute divine qui exige une grande pureté de cœur et une piété toute particulière. C'est ce que nous montrent clairement les exemples des patriarches de l'ancienne loi. Car bien que leur mariage ne fût point élevé à la dignité de sacrement, cependant ils ne les célébraient qu'avec une religion profonde et une pureté parfaite. Il faut encore, entre autres recommandations, exhorter les fils de famille à témoigner à leurs parents ou à ceux qui les remplacent assez de considération pour ne jamais contracter de mariage à leur insu, ni à plus forte raison contre leur volonté et malgré leur opposition. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, c'était toujours les parents qui mariaient eux-mêmes les enfants. Et l'apôtre fait bien entendre que leur volonté en cette matière mérite la plus grande déférence, lorsqu'il dit « Celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. » Enfin, il nous reste à parler de l'usage du mariage. En traitant de cet article, les pasteurs prendront bien garde de ne laisser tomber de leurs lèvres aucune parole indigne d'un auditoire chrétien, capable de blesser les âmes pures ou d'exciter le rire. De même que les paroles du Seigneur sont des paroles chastes, de même aussi il convient que celui qui est chargé d'instruire le peuple chrétien ne tienne que des discours qui montrent une gravité d'esprit et une pureté de cœur toute particulière. Voici donc sur ce sujet la double recommandation faite aux fidèles. D'abord, ils ne doivent point user de leurs droits pour leur seule satisfaction, mais suivant les fins que Dieu lui-même a prescrites, ainsi que nous l'avons dit plus haut. Ils ne doivent pas non plus oublier cette exhortation de saint Paul, que ceux qui ont des épouses soient comme n'en ayant point. L'homme sage, dit saint Jérôme, aimera son épouse par raison et non par passion. Il maîtrisera les entraînements de la nature et ne se laissera point apporter par un aveuglement coupable, car il n'y a rien de plus honorable que d'aimer son épouse d'un amour toujours digne. D'autre part, comme tous les biens s'obtiennent du Seigneur par de saintes prières, il faut enseigner aux fidèles qu'il est à propos de vivre dans leur état de manière à accomplir leur exercice religieux et spécialement la fréquentation des sacrements. Il convient aussi de ne pas perdre de vue les lois de la pénitence et des temps qui lui sont consacrés. Telle est la sainte et excellente inspiration souvent suggérée par les pères de l'Église. Les époux, fidèles à ces recommandations, verront s'accroître de jour en jour les biens du mariage par une plus grande abondance de grâces divines. Et tout en remplissant leurs devoirs avec une vraie piété, non seulement ils passeront cette vie dans la tranquillité et dans la paix, mais encore ils se reposeront dans cette véritable et ferme espérance qui ne trompe point d'obtenir de la bonté de Dieu la félicité éternelle. Copyright jésus-marie.com le 10 janvier 2010. Fichier placé sous licence Creative Commons. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.